Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 25. Et nous allons ce matin nous pencher sur une parabole qui nous parle d'attendre le retour du Seigneur. Il n'y a pas qu'une seule, mais nous allons nous pencher sur celle-là ce matin. Donc Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Avant la lecture, vous savez que l'homme moderne est soucieux de sa sécurité. Il aspire à toujours plus de sécurité, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale. On veut ce sentiment de sécurité, on estime même que c'est un droit. Un homme politique qui veut augmenter ses chances d'être élu doit évoquer le thème de la sécurité dans son discours de campagne. Sécurité au niveau de la famille, de l'éducation, de la santé, de la retraite, du travail, etc. On justifie les alliances entre pays et même les guerres en avançant qu'elles procurent plus de sécurité. Il est certain qu'on ne doit pas aborder l'avenir avec négligence. Notre responsabilité nous impose, dans une certaine mesure, à réfléchir avec sagesse à nos futurs besoins. Malheureusement, les hommes conçoivent trop souvent leurs projets en ignorant Dieu et la volonté de Dieu. Les hommes pensent à tort que Dieu et ses plans n'ont rien à voir avec leur bien-être, avec leur sécurité, tant sur cette terre que dans l'éternité. La grande sécurité à laquelle ils aspirent est pour leur seul séjour sur la terre. La grande sécurité à laquelle ils aspirent n'est pas une sécurité pour toujours avec Dieu. Mais pour Jésus, se préparer à entrer en sécurité dans l'éternité est un sujet de la plus haute importance. Il désire que tous ses auditeurs considèrent avec sérieux le moment où ils vont rencontrer Dieu. Jésus va donc raconter une parabole pour insister sur le fait qu'il faut être spirituellement prêt à rencontrer son Dieu. La parabole que nous examinons ce matin fait partie d'un ensemble de paraboles de mise en garde où le Seigneur nous invite à être prêts pour son retour. Et ça se trouve dans le discours sur le mont des Oliviers, dans Matthieu chapitre 24 à 25. Quelle que soit notre façon de comprendre les événements de la fin des temps, cette parabole, comme les autres, a une grande valeur pédagogique. Le Seigneur y annonce son retour et présente les aspects qui touchent la vie pratique de ceux qui l'écoutent. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, pour écouter attentivement ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Déjà, au chapitre 24, verset 45, il était déjà question d'attendre le Seigneur. Et donc, il continue. Alors, c'est la suite. 5, verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais elle répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà, pour comprendre un peu ce qui se passait dans cette parabole, il faut se rappeler ce qu'était le mariage dans l'Antiquité. Le mariage dans l'Antiquité constitue en Israël, dans la plupart des autres régions du Proche-Orient, l'événement social le plus célébré. Le mariage était vraiment un grand moment de fête et de réjouissance. presque tous les habitants d'un village ou d'un quartier, dans le cas d'une grande ville, étaient présents à titre de participants ou d'invités. Le mariage juif se déroulait en trois étapes. Tout d'abord, les fiançailles. Le père du marié et le père de la mariée décidaient de marier leurs enfants. Le futur couple n'avait pas trop de son mot à dire. Ensuite, la deuxième phase, c'était la période nuptiale, la cérémonie des vœux qui avait lieu chez les parents de l'époux. Le marié et la mariée échangeaient leurs vœux en présence de leurs proches et de leurs amis. À ce stade, le couple était considéré comme marié. Seul le divorce pouvait rompre les liens du mariage. Et à tel point que si la mariée mourait pendant la période nuptiale, cette deuxième période, la mariée était considérée comme veuve, même si le mariage n'avait pas été consommé et que le couple n'avait pas vécu ensemble. La période nuptiale pouvait durer longtemps, plusieurs mois, voire même une année. Pendant ce temps, le marié travaillait pour pouvoir payer le logement où il vivrait avec sa femme. Nous arrivons à la troisième étape, les noces, ou le feste des noces. Alors, les noces avaient lieu à la fin de la période nuptiale, c'est la troisième période. C'est à ce moment que toute la communauté était présente pour festoyer. La fête pouvait durer une semaine et se déroulait, elle aussi, en plusieurs étapes. Tout d'abord, le marié se présentait avec ses témoins chez la mariée, où les demoiselles d'honneur attendaient avec elle. Deuxième étape, le marié et la mariée, accompagnés de la cour d'honneur, paradaient dans les rues, annonçant ainsi le début des noces. Comme la procession commençait en soirée, les participants se servaient de lampes et de torches pour attirer l'attention et éclairer le chemin. À la fin de la période nuptiale, un ami du marié, qui faisait office en quelque sorte de témoin, prenait la main de la mariée et la mettait dans la main du marié. On laissait ensuite le couple seul pour la première fois. Le mariage était alors consommé et le couple vivait ensemble dans sa maison. Jésus prend comme cadre de la parabole la dernière partie du rite nuptial, c'est-à-dire les noces. Rappelez-vous, la première partie, c'est les fiançailles, la deuxième, la période nuptiale, et enfin les noces. Les noces servent de cadre à la parabole. Et cette parabole comporte trois parties que nous allons voir ce matin. Jésus parle en premier lieu des demoiselles d'honneur, les dix vierges. En second lieu, Jésus parle de l'époux. Et en troisième lieu, Jésus insiste sur la mise en garde que la parabole veut illustrer. Il faut être spirituellement prêt à rencontrer l'époux qui est Dieu. Considérons donc dans un premier temps les demoiselles d'honneur et lisons ce... Ah oui, on a déjà lu. Donc je relis Matthieu, donc la demoiselle d'honneur, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 5. Alors, le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. La parabole nous présente 10 vierges, des demoiselles d'honneur en quelque sorte. Pour les juifs, le chiffre 10 représente la complétude. La complétude, c'est le caractère de ce qui est complet, fini, achevé. Ces 10 vierges représentent donc la totalité de l'Église visible, la totalité de ceux qui s'identifient visiblement, et la lumière le montre, visiblement avec Christ. C'est tous ceux qui se disent chrétiens. Ces vierges représentent tous ceux qui professent Christ, qui disent aimer son avènement et qui disent être prêts à entrer dans son royaume. Et l'époux est Christ. En apparence, les 10 vierges se ressemblent, vous avez vu. Elles portent toutes des vêtements de noces. Elles ont toutes une lampe. La lampe qui leur permet de prendre part à la procession nuptiale. Et les 10 vierges semblent toutes prêtes pour la venue de l'époux. Mais en réalité, le texte nous montre qu'elles ne sont pas tout à fait semblables. Il y a 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Toutes ne sont pas prêtes à aller aux noces. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ce qui montre que certaines vierges n'étaient pas prêtes, c'est le fait que les vierges folles, en prenant leur lampe, n'ont pas pris de l'huile avec elles, au verset 3. Elles ont des lampes qui ressemblent à toutes les lampes, qui ressemblent aux lampes des vierges sages. Elles ont des lampes qui sont toutes semblables, mais n'ont pas pris l'huile qui permet de donner de la lumière et de donner un sens à l'utilisation de la lampe. Elles n'ont pas pris assez d'huile. Imaginez que vous devez faire un long parcours en voiture et que dans votre réservoir, il y a très peu d'essence. Vous n'allez pas aller loin avec ça. Imaginez encore que vous partez en pique-nique et que vous oubliez les sandwichs. Les enfants vont vous en vouloir. Ou que vous prenez une torche sans mettre les piles dedans. Eh bien voilà, c'était ce qu'avaient fait les vierges folles. Elles étaient parties juste avec l'huile qu'il y avait, mais sans prendre une réserve d'huile. Il n'y avait pas de montre à ce moment. L'époux pouvait arriver à n'importe quel moment. Il fallait faire preuve de sagesse. Et une lampe sans huile, elle est inutile. Faire profession de connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire dire qu'on est chrétien sans avoir une relation personnelle avec Christ, c'est inutile aussi. Cela signifie qu'on est dans les ténèbres spirituelles. On n'a pas la lampe qui éclaire. Jean chapitre 8, verset 12, on dit... C'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il nous est dit au verset 4 « Les 5 vierges sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. » Au verset 4. L'huile là symbolise la préparation, la vigilance spirituelle. Le Seigneur veut illustrer qu'il faut être prêt, qu'il faut attendre. C'est ce que ça symbolise, et dans l'Écriture, vous savez, que l'huile représente souvent le Saint-Esprit. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu, au moment de notre salut, de conversion, l'Esprit qui vient habiter éternellement avec nous. Et si nous sommes vraiment enfants de Dieu, alors nous avons l'huile qui va nous permettre d'attendre le retour du Seigneur. Mais si nous sommes chrétiens seulement de nom, si nous avons seulement fait une confession de bouche sans que le cœur n'y soit, eh bien... Nous sommes chrétiens pour un moment, mais quand l'heure va arriver, eh bien, nous n'aurons pas d'huile dans nos lampes, elles ne vont pas briller. Alors, les lampes sont les aspects extérieurs d'une profession de foi. Il faut bien que le Seigneur prenne une parabole qui illustre les choses. Donc, les lampes sont l'expression extérieure de la profession de foi, tandis que l'huile décrit la réalité intérieure et spirituelle d'une foi vivante. La lampe... C'est l'extérieur, c'est votre profession de foi. Et l'huile, c'est ce que vous avez, ce que vous êtes réellement. Les vierges sages possèdent intérieurement ce qui va confirmer ce qu'elles montrent extérieurement. Elles ont l'huile. Elles ont l'huile qui témoigne de la lumière de Dieu qui brille dans leur cœur, de la grâce de Dieu qui les a sauvées, la grâce qui est suffisante pour les sauver et faire d'elles des enfants de Dieu. Les vierges folles ont une certaine piété, mais elles n'ont pas l'huile dans leur lampe. Elles n'ont pas la vie, elles n'ont pas la puissance spirituelle. Ces vierges folles sont consacrées à Dieu sur les plans religieux, intellectuels et émotionnels. Par contre, elles ne sont pas consacrées de cœur, parce que le cœur n'a pas été régénéré par la grâce de Dieu. Elles sont dans les ténèbres et non dans la lumière. On peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Qui nous montre que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur, eh bien, Dieu fait briller dans nos cœurs sa lumière. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 6. On peut commencer au verset 3. Si notre évangile... est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », ça nous rappelle la création, quand Dieu a dit « Que la lumière soit, la lumière fut ». « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà. Celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu la lumière. Je suis la lumière du monde. Il est venu dans le monde. Les siens n'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La mise en garde que Jésus fait dans cette parabole se retrouve dans plusieurs endroits dans les évangiles. Le Seigneur insiste sur le fait qu'il y aura deux types de croyants. Ceux qui se disent croyants, qui ressemblent, tous les croyants qui se disent croyants ressemblent soit à du bon grain, soit à de l'ivraie. On peut regarder ça dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Donc on retourne dans Matthieu chapitre 13. Et nous. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Donc, parmi tous les croyants, il y aura ceux qui ressemblent au blé, les vrais croyants, et ceux qui sont de l'ivraie. Les deux se ressemblent, mais à la fin, la distinction sera faite par le Seigneur. La même idée est reprise dans la parabole du semeur et des quatre terrains. La semence tombe dans divers terrains, et malgré une pousse dans certains terrains, eh bien, seule la semence tombée dans la bonne terre, le quatrième terrain, s'enracine, pousse et donne du fruit. Ce message n'était pas populaire au temps de Jésus-Christ. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur des gens. On pouvait lui dire « Je crois en toi, Seigneur », mais lui savait ce qu'il y avait dans le cœur. Et il ne se fiait pas aux hommes. Il lisait dans les cœurs. Et son message n'était pas populaire. Mais même à cette notre époque, ce message-là n'est pas populaire. Remarquons qu'il y a autant de vierges folles que de vierges sages. Cela laisse supposer qu'il y a une partie, et une grande partie, de ceux qui se disent chrétiens qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur n'aurait pas insisté à plusieurs reprises, dans plusieurs paraboles, sur le fait d'être prêt, d'être un authentique chrétien. Et il faut savoir que dans tous les temps, il y a eu des vrais croyants et des croyants de nom. Nous continuons au verset 5, « Comme l'époux tardait ». Nous retournons dans Matthieu chapitre 25, verset 5. « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Comme l'époux tardait, ça nous dit que le Seigneur va arriver d'une façon qu'on n'attend pas. Il tarde, il faut être prêt pour son retour. Pour l'horloge humaine, l'époux tarde, mais pas pour l'horloge de Dieu. Pour l'horloge divine, il revient au moment où il faut. Et devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Il nous faut attendre le Seigneur. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Tiens, les sages et les folles s'endorment. Y a-t-il un problème ? Rien dans le contexte ne nous permet de conclure que le sommeil des sages, comme des folles, est une forme de paresse. Même les sages qui s'endorment. Le sommeil des sages n'est pas une forme de paresse ou de manque de foi. Même les sages se sont endormis. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Alors que les vrais croyants attendent le retour du Seigneur, la vie continue normalement. On ne s'isole pas à attendre le Seigneur. On vit normalement. Il faut manger, il faut boire, il faut se vêtir, il faut travailler, il faut dormir en attendant le Seigneur. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt pour son retour, prêt spirituellement. Non pas avoir l'apparence de chrétien, mais avoir vraiment la vie qui nous permet d'attendre le Seigneur. Entretenir aussi notre relation avec le Seigneur collectivement, comme c'est ce matin le cas. Nous adorons, nous rappelons que la vie a ses souffrances, mais le Seigneur est avec nous. Dans les temps d'études bibliques, dans les temps de prière collectivement, mais individuellement aussi. Et nous allons voir justement plus tard cela. Nous allons voir ça plus tard. Le Seigneur qui sonde les cœurs est capable, lui, de distinguer les vrais croyants des faux croyants. Il appelle ces faux croyants les vierges folles. Puissions-nous, frères et sœurs, puissiez-vous, chers amis, faire partie des vierges sages qui ont reçu la vie d'en haut parce qu'elles sont confiées dans la grâce seule de Dieu, sans s'appuyer sur leurs œuvres, sans s'appuyer sur leur moralité, sans s'appuyer sur leur justice. Et on peut lire, prenez avec moi, Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. On peut commencer au verset 1. Vous, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul écrit aux Éphésiens qui sont des chrétiens, il y a des juifs et des non-juifs, et il leur dit que vous, les juifs, vous étiez les païens, vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés. Mais nous aussi, les juifs, nous étions tous des enfants de colère. Et tout homme qui naît d'Adam, de la femme, est sous le coup de la condamnation de Dieu. Nous sommes des enfants de colère comme les autres. Comment nous sommes sauvés? Comment nous pouvons échapper à la condamnation qui pèse sur nous? Eh bien, nous l'avons déjà montré avec la scène. Quelqu'un a payé pour nous, Jésus-Christ. Et il nous est redit au verset 8... Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu nous fait grâce, il nous donne ce qu'on ne mérite pas, et on doit se saisir de ce salut en Jésus-Christ par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le nom de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, nous avons vu la première partie de cette parabole. Nous avons considéré les 10 vierges folles et sages qui sont l'Église professante, les vrais chrétiens, et les faux chrétiens. Maintenant, considérons l'époux. Dans la suite du discours, dans Matthieu chapitre 25, et nous commençons au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La venue encore de l'époux au milieu de la nuit souligne à nouveau le caractère inattendu du retour de Christ. Au milieu de la nuit, là, au milieu de la nuit, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas actif. Tout le monde dort à point fermé. C'est comme le cas de ces demoiselles d'honneur. Au milieu de la nuit, nous dormons. Et l'époux peut arriver à n'importe quel moment, au moment où on ne s'attend pas. Sachant que l'époux doit venir, toutes les demoiselles d'honneur se réunissent chez lui pour l'attendre. Les fiançailles et la période nuptiale sont terminées. Les dernières festivités sont sur le point de commencer. Donc, elles ignorent à quel moment l'époux va arriver et tout à coup, on crie « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ». La réaction des vierges sages n'est pas égoïste. Il n'y a pas assez d'huile pour elles et pour les autres. Donc, il faut qu'elles gardent l'huile pour que leur lampe continue à briller. Et finalement, ça nous dit qu'on ne peut pas transmettre la vie spirituelle. Hein? Les personnes qui sont sauvées ne peuvent pas devenir des sauveurs. On n'est pas sauvé par les hommes. On est sauvé par une relation personnelle avec le Seigneur. L'achat d'huile chez ceux qui en vendent, signifie qu'il faut se rendre à la seule source du salut. L'huile qui fait briller notre lampe se trouve dans le Seigneur. Il faut aller, chacun individuellement, chercher cette huile chez le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il faut que chacun individuellement aille voir le Seigneur et recevoir l'huile pour être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est une transaction personnelle que chacun doit faire seul avec Dieu pendant son temps sur terre. On ne peut pas dire « mes parents sont chrétiens, ça va aller ». Je vais dans une église, ça va aller. Non, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Et donc chacun doit faire ce pas de la foi, de dire, Seigneur, me voici, tel que je suis, je viens à toi, prends-moi, je veux être ton enfant, par la foi. Et voilà que le verset nous dit que la porte fut fermée. Voilà ce que on entend pendant, verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et au verset 11, on lit « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais elle répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas ». La porte fut fermée. Le temps qu'elles allaient pour prendre de l'huile, eh bien, l'époux est arrivé et les vierges sages sont entrées. La porte fut fermée. Et elles ont beau dire « Seigneur, ouvre-nous », je ne vous connais pas. C'est terrible. Et ça va être terrible pour ceux qui n'ont pas fait ce pas de foi avec le Seigneur, d'entendre le Seigneur nous dire ça. Chacun de nous devra comparaître devant Dieu avec sa lampe, pour reprendre l'image de la parabole. Une lampe qui brille, une lampe qui est éteinte. C'est, le choix se fait dans cette vie. Est-ce que nous fondons notre salut sur nos œuvres, sur la tradition, sur une décision prise un jour, ou est-ce que nous fondons nos œuvres, notre salut sur la grâce de Dieu, sur son sacrifice? Et au point que si on doit se trouver aujourd'hui devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Seigneur, tiens, voici mes œuvres que j'ai faites pour toi, ou Seigneur, je me confie entièrement en ton sacrifice. Voilà, frères et sœurs, nous devons nous confier entièrement avec le Seigneur, dans le Seigneur, le connaître personnellement afin qu'il puisse nous dire « Je vous connais ». Mais si nous n'avons pas fait ce pas de foi avec lui dans cette vie, eh bien il nous dira « Je ne vous connais pas ». Donc nous terminons avec cette mise en garde au verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc. » Le Seigneur nous exhorte à considérer sérieusement cette question. Le Seigneur nous exhorte à travers cette parabole à ne pas remettre à plus tard notre sécurité éternelle, le salut de notre âme. Demain sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Demain, elle risque d'être fermée. Ne tardez pas, il faut être prêt pour la venue de l'époux, pour la venue du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans votre cœur.